Radio Galère 88.4 FM.
Oui, bonjour Hezboul. Nous sommes sur Radio Galère 88.4. Cette émission spéciale consacrée au printemps berbère, tel qu'il a été nommé, Tafsouth Tmanyin, de 1980, et consacrée aussi à ce que on a nommé ici pour cette émission le printemps d'Algérie. Merci à tous les auditeurs qui sont de l'autre côté de l'antenne, éventuellement de nous appeler en cours d'émission. Cette émission donc, se pose la question du combat citoyen pour une Algérie libre et démocratique, qui évidemment constitue l'actualité brûlante et chaude en Algérie depuis 2 mois, depuis le 22 février, avec ce vaste mouvement inédit et pacifique entre insurrection, contestation et peut-être ce qu'on appellera révolution. Et les premières manifestations de citoyens de 1980 dans ce qui était l'Algérie du Parti unique et de l'après-indépendance, donc 1980. On va essayer donc avec nos invités d'échanger, d'analyser et de voir peut-être en perspective ce qui peut, sur quoi peut déboucher la situation actuelle et qu'est-ce que ce fameux printemps berbère qui a irrigué, qui a fini par irriguer toute l'Algérie, en partant de Tizi Ouzou, toute l'Algérie et tout le monde amazir, toutes les migrations, comment est-ce que ce mouvement de 1980 a été peut-être précurseur des changements tant souhaités par les Algériens. Autour de la table, nous avons pour l'instant 3 invités, d'autres vont nous rejoindre. Jamal, qui vient des Aurès, installé à Marseille, militant de l'Algérie et militant à Mazir, et militant de la culture, je pense, hein, tu me corriges ici.
Si du mouvement citoyen des Aurès.
Et du mouvement citoyen, ah oui, ouais. C'est vrai qu'il est dans le mouvement citoyen des Aurès, MCA, qui, mais on va en parler certainement tout à l'heure avec Kamal, qui est le pendant, le frère jumeau du MCB, du mouvement culturel berbère, né à Tizi Ouzou, dans la foulée du printemps à Mazir. Nous avons autour de la table aussi un artiste, ancien directeur des Beaux-Arts, de l'École des Beaux-Arts de Azazga. Artiste, enseignant. On va en parler tout à l'heure, il va se présenter un peu plus largement. Nordine Bouder, installé à Marseille depuis maintenant 25 ans.
94,
j'étais pas loin. Hein. Oui. Et nous avons comme troisième invité M. Kamel Chachoua, qui est anthropologue, chercheur au CNRS. Donc on a un universitaire à qui on a demandé... dans un premier temps, on lui demandait de venir expressément pour avoir le point de vue d'un universitaire en dehors des manifestations et des rassemblements à chaud qui sur Marseille accompagnent, soutiennent et s'expriment, donnent un lieu d'expression aux Algériens et à ceux qui veulent soutenir le mouvement. En cours en Algérie. Donc Kamel Chachoua est donc chercheur anthropologue. Il a à son actif plusieurs publications. Et tu enseignes, Kamel, aussi, hein, tu es professeur. Ouais. Il est professeur à Sciences Po, donc Et c'est et Kamal est quelqu'un de Monsieur Chachois est quelqu'un de très actif dans le sens où il écrit beaucoup. Je vois un peu ses beaucoup d'articles, beaucoup de publications, traductions aussi, entre domaine Amazir, mais on va peut-être pas parler de à un moment donné de quelques. Alors je vois une traduction d'Albert Camus et Camus, hein, La misère en Kabylie. Traduction toute en tamazirt, c'est extraordinaire, hein, c'est un gros travail. Et il travaille aussi sur les migrations, c'est vrai, hein, sur les migrations. Donc là, il y a c'est un ouvrage, un numéro collectif, hein, sur mobilité et migration méditerranée vers une anthropologie de l'absence. Bon, donc on pourrait faire avec M. Chachois 50, peut-être 50 émissions. Mais aujourd'hui, donc, on va lui demander et être attentif à ce qu'il va nous dire par rapport aux deux printemps, Amazir et Algérien. Merci. Point de départ, ce fameux 10 mars, ou 1980, ou de façon en pensée, anodine, Mouloud Mamri, éminent anthropologue, écrivain, connu. Il a rédigé, il a participé à la rédaction de la déclaration à l'ONU, me semble, hein, qui a été lue par qui, Kamal?
En 1956.
Qui a été lue par...
l'ONU. Hein, c'est lui qui avait rédigé le texte.
C'est lui qui avait rédigé le texte. Donc... Mamri engagé pour l'Algérie indépendante. La question algérienne en 1957, oui. Donc Mamri est connu, hein, on ne va pas revenir trop sur Mamri, mais il se trouve que c'était une conférence sur la poésie berbère ancienne, donc sur un ouvrage qui est sorti suite à un gros travail de recherche sur le terrain de Mamri, sur la poésie berbère ancienne. Eh ben, cette manifestation, cette conférence qu'il devait donner à l'université de Tizi Ouzou a été brutalement empêchée et Mamri a été intercepté, je crois, à une quinzaine de kilomètres de Tizi Ouzou. Intercepté. Et c'est ça qui va déclencher le fameux mouvement du printemps berbère amazir. Alors, juste sur Kamal.
Oui. Oui. Oui, tu as raison de parler tout à l'heure du 2 mars, je crois. Vous entendre dire 2 mars avant le 10.
Oui, il y a une interview de Mouloud Mamri au journal oui. Libération.
Alors, c'est effectivement, je pense, maintenant, c'est la plus importante.
D'accord. 10 jours avant, il y avait...
Cette interview dans Libération avec Didier Ribon, qui est journaliste à l'époque à Libération, et qui était aussi un ami et un élève de Pierre Bourdieu, et qui est à peu près, d'ailleurs actuellement, il a beaucoup publié, c'est un sociologue, un professeur à l'Université d'Amiens, qui publie énormément sur plusieurs questions, et notamment sur la question gay. Et justement, en 2 mars 1980, Didier Ribon avait accueilli Mamri pour un entretien, à l'époque, sur la poésie berbère. Parce que Mouloud Mamri venait juste de publier, à l'époque, les poèmes kabyles anciens. Quelques jours auparavant, Bourdieu lui-même avait fait un compte-rendu de ce livre dans Libération. Et dans cet entretien, qu'il faut absolument bien relire et plus attentivement aujourd'hui, parce que il me semble qu'il a quelques importances pour comprendre effectivement les débuts du mouvement. Peut-être nous reviendrons, parce que c'est un point plus particulier. Mais oui, c'est important. Maintenant, je pense que c'est de là qu'est venue cette, ce barrage qui a été fait à Dara Ben Khedda le 10 mars 1980. Aujourd'hui, on sait un peu beaucoup de choses hein, sur les conditions, sur ce qui était avant, ce qui était après, ce qui, les réunions, etc. Mais oui, grâce effectivement à la science, grâce, c'est-à-dire à beaucoup de témoignages, on connaît aujourd'hui beaucoup, beaucoup de choses, de, beaucoup de détails sur les origines, le contexte de l'événement. Et c'est ce qui fait qu'il est aujourd'hui bien plus difficile de faire le contexte historique et sociologique de ce mouvement. Ouais.
Nordine, Monsieur Boudère, vous n'étiez pas...
Non, je n'étais pas. Pour d'autres raisons, j'étais à Paris, j'étais étudiant à Paris à l'époque. Et voilà, je...
Alors, est-ce que ce printemps berbère a eu un écho, mais sans aller... on reviendra tout à l'heure sur l'École des Beaux-Arts. Est-ce qu'il y a eu un écho sur ta vie,
dirais. C'est sûr qu'il a eu un écho. Mais je veux dire que quand on se met à voir un peu le passé dans ce qui se passe actuellement, presque le passé s'efface, étant donné que nous sommes vraiment dans le... Voilà. Et c'est pour ça que, face à ce qui se passe maintenant, les souvenirs, pas beaucoup, que j'avais à l'époque, étant donné que j'étais à Paris dans un autre contexte, presque s'efface devant ce qui se passe maintenant. Est-ce que ça annonce comme victoire probable et proche?
On va revenir donc sur tout à l'heure, sur oui. Plus tard, sur 2001. Jamal,
oui.
Tu étais très jeune. Je te croyais plus âgé, mais tu fais...
Non, j'avais que 10 ans.
Que 10 ans. Donc tu n'as pas été acteur de...
Je n'ai pas été acteur, mais même pas. J'avais des échos à mon jeune âge. Hein. Mais avec le temps...
Mais à 10 ans, tu n'as rien perçu de...
Non, j'ai rien perçu à l'époque.
Rien perçu de...
Mais après, oui. Après, oui. Après, quand j'ai creusé dans l'affaire, ce que c'était le printemps berbère, et je voulais comprendre...
À quel âge tu as pensé à comprendre ce qui se passe
On va dire vers 15 ans.
Hein. Vers 15 ans déjà.
Vers 15 ans, mais il y avait toujours... comment dire en arabe, tatim l'ilami, c'est-à-dire il y avait toujours un renfermement sur la question. C'est-à-dire tu ne trouves pas quelqu'un qui te parle de ce qui s'est passé.
Alors tu es des Aurès, Jamal?
Oui, je suis des Aurès.
De quelle ville?
J'habite Batna, je suis originaire de Tkout.
Si vous le souhaitez, c'est à Tchawit.
Merci d'avoir écouté Tchawit. Vous
êtes
Tchawit. Vous êtes Tchawit. Vous êtes Tchawit. Je suis le Lourdes de Gwarris. C'est l'Achna Bousliman Nichoukht. Tu es de Batna.
Donc tu es de la ville d'Aris et tu as vécu à Batna.
J'ai vécu à Batna, oui.
Et tu es venu plus ou moins récemment à Marseille.
Oui, j'ai que 4 ans ici.
Donc je crois que tu es impliqué dans le mouvement culturel à Mazir.
Oui, dans les Aurès, quelque part. Parce qu'à l'origine, j'étais un webmaster d'un site. C'est-à-dire j'étais le créateur du premier site qui parlait des Aurès. Comme les Aurès n'avaient pas de... un site ou une façade sur Internet. Donc j'ai commencé à créer une page qui s'appelait à l'époque Zalatou. Et c'était au bon moment où il y avait le lancement de Aurès Chewia, dont Ammar Nghadi Herham Rabbi, c'était le rédacteur de tous les textes sur Aurès Chewia. Donc je me suis arrêté un peu pour voir qu'il n'y aura pas de ressemblance. C'est-à-dire je voulais voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Et puis moi, je me oriente vers autre chose. Mais c'est toujours dans le même contexte, c'est les Aurès.
Alors, une photographie des Aurès quand tu as eu 15 ans et de la question à Mazir dans les Aurès, à ce moment-là.
C'est-à-dire, moi, à l'époque, au début de mon jeune âge, donc même à l'école primaire, on habitait à Ain Mlila. Donc, je ne parlais plus Chaoui. Ça, il faut le dire, je ne connaissais pas le Chaoui, je ne le parle pas. Mais c'est en déménageant en retour à Aris vers l'âge de... on va dire 6, 7, 8, 9 ans, c'est en retour d'Aris que j'ai commencé à voir mes collègues de l'école qui parlaient Chaoui. Moi, je ne comprenais pas. Et c'est de là, c'est dans la rue que j'ai appris ça. Et ça parle ma grand-mère aussi. Parce que ma mère, elle ne parle pas Chaoui, malgré qu'elle est Chaoui.
Donc tu as failli être amputé de...
Oui,
de,
c'est dans la rue que j'ai appris le chéri. J'étais obligé parce que tu es avec tes collègues qui parlent que de chéri. Voilà.
Kamal, on reviendra sur les Jaurès et sur 2001 tout à l'heure. On avait eu un petit échange, Kamal Chachoua, sur le contexte qui a amené, en même temps, la répression de cette conférence et l'interdiction, et en même temps, la stigmatisation particulière ou délibérée de la question amazigh en 80, alors qu'on était sorti de l'indépendance, depuis 18 ans, mais qu'il y avait déjà un processus d'arabisation dont Kateb Yassine disait « Si le peuple algérien est arabe, pourquoi est-ce qu'on veut l'arabiser ?» Puisqu'il est... Et s'il n'est pas arabe, pourquoi est-ce qu'on veut l'arabiser ? Pourquoi cette entreprise de l'État ? Et de l'État, au nom de ce que doit être la nation algérienne, d'arabisation, qui a fait que notre ami Jamal...
Oui, historiquement, là, j'interviens parce qu'il faut savoir que l'Aurès a été un champ d'essai. C'est-à-dire, le premier lycée arabisé, c'est le lycée Abbas el-Gharour, en Algérie. C'est
quelle année ?
C'est dans les années, juste après l'indépendance. Hein. C'est à l'époque de Moumenine.
Arabisé complètement.
Arabisé, c'est-à-dire les arabisants qui font des études en langue arabe, on les oriente pour aller au lycée Abbas el-Gharour. C'est pour ça qu'il y avait c'est pour ça qu'il y a un conflit entre les francisants et les arabisants, quoi.
C'est un lycée d'enseignement originel, on l'appelait à l'époque cet enseignement. Oui.
Et excuse-moi, chef, encore une autre information. Le premier lycée aussi islamisé, c'est-à-dire le Ma'had l'Islami, comme on dit, c'était le lycée Salah Din Ayoubi aussi à Batna. Ouais. Donc ils ont commencé ces deux phénomènes, l'arabisation et l'islamisation, à Batna, et puis ça a élargi après vers toute l'Algérie.
Alors Kamal, le contexte politique, économique, social qu'il y a, et pourquoi 80 ? Pourquoi juste sur une conférence qui aurait pu être sur un livre ?
Absolument. Et c'est pour ça que aujourd'hui vraiment, c'est revenir sur le contexte de 80 est extrêmement intéressant, même si... On a toujours l'habitude de dire, quand on prend un événement, on dit, on revient, on regarde le contexte. Seulement que pour contextualiser, il faut connaître l'événement. Et on dit que pour connaître l'événement, il faut contextualiser. Vous voyez, c'est quelquefois, on est toujours dans cette... par rapport à 80, c'est vrai que quand on dit, on trace, on pose historiquement... Une limite, une frontière aussi chiffrée que celle qu'on voit aujourd'hui, 80, le 20 avril 80, qui est maintenant devenue une date symbole du printemps berbère et de cette insurrection du printemps de 1980. À vrai dire, il est bien évidemment le produit, et on ne va pas le refaire ici, d'une histoire très ancienne, d'une lutte, on va dire, berbériste très ancienne, qui, probablement, on va en parler tout à l'heure, qui est liée à, aussi à l'immigration, d'ailleurs, hein, puisqu'on est on parle en immigration. L'Académie berbère, l'association Imdiezen...
L'Académie berbère en France.
En France, bien sûr. Oui. Oui. L'association qu'on dit Imdiezen, qui était à Paris 8, à partir de 1968, 72. À l'université... parce que l'université Paris 8, Saint-Denis, Vincennes, est ouverte en 1968, juste après les événements de 68. Et c'est la seule université où il était admis, où on a admis un enseignement de culture et de langue étrangère en France. Et c'est là que s'est créé, pour la première fois d'ailleurs, le tout petit cours d'enseignement du Berbère. Et c'est là aussi où se retrouvait le premier foyer, hein, des études et de la recherche, mais aussi de la politique, hein, berbère. Alors tout ça était lié. Et on va voir d'ailleurs avec la question berbère jusqu'à aujourd'hui, on voit que la science, l'élite scientifique, l'élite militante politique est extrêmement en symbiose. Hein. On s'étonne quelquefois sur ça, mais c'est vrai. Hein. Les politiques sont eux-mêmes des scientifiques, sont eux-mêmes des militants et quelquefois des artistes. C'est un mouvement qui est joliment, on va dire, artistique. Et à Paris, Saint-Denis, à l'époque, il y avait quelqu'un comme Barker Jala, je pense.
73, oui.
À partir de 72. Mais il y avait à ce moment-là des étudiants boursiers algériens qui étaient envoyés. À l'époque, l'Algérie n'avait pas les moyens de créer des post-graduations en Algérie, dans les universités algériennes. Donc, elle envoyait ses étudiants quand ils terminaient leur licence en Algérie pour des études en France. Pour les études, à l'époque, c'est le DEA, hein, diplôme d'études approfondies, et des ingénieurs, mais ils les préparaient tous en France. Et parmi, c'est le cas d'ailleurs de Hund, Saadi, par exemple, et de plusieurs autres, Oussalem, ils sont tous passés, si vous voulez, des économistes. Et notamment, c'est un point aussi intéressant, tous les militants de cette génération, particulièrement, c'était des étudiants en sciences exactes. On trouve très, très peu qui sont en littérature, en linguistique, en histoire. Beaucoup d'entre eux sont des ingénieurs. Ils fréquentaient pour leur plaisir, pour leur passion personnelle, ce cours d'études berbères qui a fonctionné à peu près à l'époque exactement comme fonctionnait à Alger le cours de Mouloud Mamri.
Alors, en revenant à Alger, Kamel Chachoua, le cours de Mouloud Mamri qui a été supprimé.
Alors, qui a été supprimé en 73.
En même temps que, quasi, qui en est même supprimé. Temps que la radio... Radio Kabyle.
Alors, la radio Kabyle, il faut revenir peut-être à l'histoire, elle était créée en 1948, oui. Qui était d'ailleurs à l'époque un autre Kabyle, Bachir Ibrahimi, hein, oui. qui a succédé à Ibn Badis en 1940, disait que quand j'entends, il faut se le figurer, hein, il disait que quand j'entends le Kabyle à la radio, mes oreilles sifflent. Et lui-même, il est de cet if.
Michel Brahimi, qui a un lien avec...
qui est le père
qui est le père de...
Ahmed Talib. Ibrahimi, et qui est parti, qui est originaire de cet if, et qui est parti en famille quand il était petit. Hein. Je crois qu'il devait avoir 6 ans. Sa famille a émigré en Syrie en 1911. Et il est revenu en Algérie en 1924, après la fin de la Première Guerre mondiale, etc. Je veux venir par là. D'ailleurs, c'est très, très intéressant de s'arrêter là.
Oui.
Alors, vous voyez le père qui disait sur ça, là, mais il faut faire... Il faut vraiment ne pas oublier certaines nuances, certains détails qui sont très importants. En 65, c'est-à-dire en septembre 65, c'est-à-dire 2-3 mois après le coup d'État de juin 1965, qui avait porté Boumediene comme, on va dire, président de l'Algérie, même si il dirigeait le Conseil révolutionnaire et Ben Bella était arrêté, etc. Mais c'est le fils, Talib Ibrahimi, qui était alors ministre de l'Éducation et qui avait téléphoné à Mamri et lui a dit « Est-ce que tu peux assurer un enseignement du berbère à l'université ?»
Il faut rendre à César ce qui appartient à César.
C'est comme ça que Mamri avait, dès 65, septembre 65, assuré ce cours dans le cadre d'un enseignement à l'époque. Je crois, on disait propédeutique. Voilà, c'est un tronc commun des sciences humaines, de sociologie. Donc, il était enseigné ce cours dans le cadre d'un enseignement d'ethnologie. Oui. Et en 73-74, il est supprimé parce que la réforme de l'enseignement de 1971, vous savez, il y avait la réforme agraire, la réforme culturelle, les révolutions, on appelait ça les révolutions culturelles, industrielles, la révolution agraire, etc. La dernière, presque la réforme boumdienne, disait que l'université est la citadelle que je vais, effectivement, par laquelle je vais achever mes révolutions. Et à ce moment-là, la suppression de l'ethnologie, c'est-à-dire la réforme de l'enseignement, ils ont supprimé finalement plusieurs langues. Ils disaient à l'époque toutes ces petites langues, etc. C'est-à-dire que le berbère était considéré comme une petite langue, etc.
Alors, Kamel Chechoua, je crois qu'on a un appel au téléphone. Quelqu'un qui va peut-être poser une question. Allô ?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, ça a été. Bonjour. Voilà, je me présente. Je suis un ancien combattant de l'ALN, ancien FLN aussi, probablement le premier plus jeune à avoir été humilié par l'armée française le 19 novembre 1954. Donc, je n'ai je n'accepte aucun reproche de qui que ce soit. Parce que, je voulais rapporter un petit machin à l'islamisation des écoles de Batnaï, de Harris, tout ça. En fait, l'islamisation, elle a commencé avant l'indépendance. J'étais dans le Jibel Lasfor, à la frontière algéro-marocaine. Et alors, je voulais des jeunes commissaires politiques qui ont été formés en Égypte. Ou à nous, le contraire des anciens commissaires qui ont continué à rassembler et de parler que de révolution d'Algérie, de libre d'Algérie, tout ça. Comment à nous, j'ai voulu des jeunes. Donc, il y a un nom à l'islam, à l'islam, à l'islam, à l'islam. Là, ce matin, c'était l'arabisation déjà, elle a commencé. Vous êtes, ça a été renforcé par l'arrivée des ulémas de Masr et à leur tête, Cheikh Mohamed Al-Ghazali.
Alors, merci pour ces précisions sur ce qui est votre témoignage pour. Vous qui avez vécu le déclenchement de la révolution et qui témoignez d'un contexte d'islamisation.
Oui, mais Mohamed Al-Ghazali, c'est lui qui a emmené l'Algérie.
Et par rapport au printemps de 80, est-ce que vous l'avez vécu là-bas? Est-ce que...
J'étais en France. Par trois fois, je suis rentré après. J'ai démissionné de la gendarmerie. J'ai dit France a voulu taper le coup d'État pour essayer d'organiser la résistance à Boubidit. Ça en a échoué.
Bien, merci, monsieur, pour votre témoignage, oui. Qui nous vient en même temps de Marseille, je suppose, et des Aurès. Là, c'est le moment d'écouter, hein, parce qu'il faut qu'on fasse une pause musicale, me dit le technicien. D'écouter, d'avoir une pause musicale et on reprend notre émission dans 2 minutes.
في 24 سن ذيك سن دوين تاني ميت سعنا في مدام هات ميتي السفران أمي فكان لها غير كلي فحفنت هو فنت ولا ششور سمخ ديمان هات ميني لينور نبلي شار شار يفار ميت فران.
Oui, Azoul, bonjour. On est sur Radio Galère pour cette émission spéciale printemps berbère, printemps d'Algérie. Nous reprenons avec nos invités les débats que nous avons engagés tout à l'heure. Nous étions... retourner oui. en Algérie dans les années 73, mais le temps court, oui, le temps court, donc il va falloir peut-être qu'on parce qu'on doit évoquer 2001 et on doit aller sur juste on reste quand même parce qu'il faut qu'on conclue sur
on peut pas sur conclure 80. Parce qu'on n'a pas commencé
pas conclure, hein, sur, oui. Donc non, on disait le contexte
c'est que, le contexte c'est que ce qu'on disait tout à l'heure sur le cours de Berber de Mouloud Mamri à l'université d'Alger comme d'ailleurs le cours de Paris 8 de Saint-Denis avait abouti finalement parce qu'il y avait une jeunesse qui était une jeunesse qui était d'abord
c'est important jeunesse et étudiant
à la fois à Alger avec Mouloud Mamri, où effectivement le cours était suivi à l'époque par Salem Chaker, par Rachid Belil, Kamel Mustafa Bouhmo, par exemple, etc., qui suivaient Saïd Saadi, Hunt.
Donc vous pensez que 80...
Après, il y a eu...
Vous pensez que 80, on discute, hein, que 80... Non, je pose une question. 80 est porté par... la jeunesse et plutôt une mouvance jeunesse étudiant.
Non, ce n'est pas les vieux qui vont sortir. On n'a jamais vu du troisième âge venir faire une révolution ou quelque chose comme ça. Mais ces jeunes qui ont été des universitaires, c'est ça le plus important, et qui sont revenus dans les années 77 à Tizi Ouzou pour enseigner. Et ça coïncidait avec l'ouverture du centre universitaire de Tizi Ouzou en 78. Donc, il y avait à la fois tout ce groupe d'étudiants très jeunes, célibataires, qui étaient le produit de l'excellence scolaire, parce qu'ils étaient tous, je disais tout à l'heure, en sciences exactes, c'est des médecins et des sciences exactes. Vous prenez Idir, Mouhia, etc. C'est des gens qui ont fait mathématiques. C'est les plus brillants de l'école. Et c'est pour ça qu'ils étaient sûrs d'eux-mêmes aussi, parce qu'ils disaient, pour eux, dans leur inconscient, si vous voulez, social, etc., ils étaient les meilleurs produits de l'école. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que, aussi, l'université de Tizi Ouzou, ce n'est pas le département de lettres arabes, ce n'est pas le droit, ce n'est pas sciences éco, ce n'est pas les sciences de la terre, enfin, il n'y avait pas à l'époque ces disciplines. Ceux qui ont créé le mouvement, c'est des mathématiciens, essentiellement. C'est des enseignants, des jeunes, très jeunes enseignants, en économie et surtout en mathématiques, c'est-à-dire en sciences exactes. Alors, c'est là qu'ils ont fait cette demande à l'époque d'une conférence pour Mouloud Mamri, le 10 mars. Il n'y avait aucune arrière-pensée derrière, mais c'est réellement le pouvoir qui avait lui-même créé ce...
Attention.
Alors, c'était à l'époque exactement ce que ça a été. Il y a tout juste le mars dernier, l'appel au cinquième mandat, c'était quelque chose que le pouvoir, si vous voulez, a fait de lui-même. C'est lui-même qui se provoque. Si vous voulez, avec
vous pensez qu'il y a un parallèle
enfin, bien sûr, parce que arrêter Mouloud Mamri, je crois que s'ils n'avaient pas arrêté Mouloud Mamri à Dara Ben Khada, il ne serait rien passé. Parce que quand on voit qu'est-ce qui s'est passé à Hesnaoua le 10 mars au matin, il y avait un amphithéâtre qui était rempli d'étudiants, il y avait des voitures qui allaient jusqu'au stade à Tizi Ouzou. Tout le monde attendait depuis 10 heures du matin. Il y avait l'amphi était rempli. Il n'y avait même pas de place debout, etc. Et puis, tout d'un coup, tout ce monde, on leur dit tout simplement, la conférence est annulée et que Mouloud Mamri va bien. C'est une provocation. Et c'est de là qu'est né, effectivement, le mouvement. C'est une erreur, c'est un hasard Oui, c'est une erreur. Je veux dire, c'est une faute politique. Mais c'est une habitude de la répression. Et les premières, d'ailleurs, slogans, hein, c'était « Abat la répression »,« La liberté d'expression », et ça, parce que ça coïncidait avec l'interdiction de la conférence.
Alors, notre ami qui nous a rejoint autour de la table, Kader, que je n'ai pas présenté en début d'émission, qui est militant de l'Algérie, qui est militant en ce moment au sein du CATSA, du comité à Marseille, comité pour une alternative démocratique et sociale en Algérie, dont on avait parlé en début d'émission. Donc, Kader, tu voulais réagir ou poser une question à M. Chachoua ?
Poser une question. Donc, je vous remercie de m'avoir donné l'antenne. Donc, pour bien préciser, donc, je suis apolitique dans toute sa splendeur. Et la question, donc, je vous écoute, et la question que j'aimerais vous poser... chacun il fait son analyse. J'ai l'impression que cette répression, elle est due pas parce que c'est dû à la langue berbère. C'est une impression. Vous pouvez me corriger si je me trompe. Mais est-ce que ce n'est pas dû, cette répression, à la perte de pouvoir des gens qui tiennent le pouvoir en Algérie depuis l'indépendance, vu que l'histoire de l'Algérie, elle a eu, comme on l'a dit, sur des coups d'État, au point de ne pas perdre le pouvoir. Et cet État-là, qui est dirigé par on ne sait qui, est-ce que ce n'est pas le fait de perdre le pouvoir qui a poussé à la répression? Parce qu'on prend les années 90, quand il y a eu le terrorisme qui a éclaté en Algérie. Et bien, l'État il a fait en sorte que l'intellectuel, c'était la première personne qui était visée en Algérie. Plus on tue l'intellectuel, plus on garde l'ignorant. Et l'ignorant, il est plus facile à adoucir et amadouer que l'intellectuel. Au lieu de dire... Moi, je suis plutôt sur un dialogue. C'est la question, c'était, est-ce que vous pouvez me donner cette réponse auquel je me pose moi aujourd'hui? Est-ce que c'est réellement parce que c'est des Kabyles qui ont lancé le mouvement, ou est-ce que c'est l'État qui avait peur de perdre le pouvoir par ses intellectuels, parce que vous disiez que c'était des mathématiciens? La question, c'est celle-là.
Kamal Chachoua.
Alors, si vous voulez, la situation est ailée, le télescopage de cette situation, hein, entre l'organisation d'une conférence qui était habituelle. Mamri faisait des conférences à Alger, intervenait. Il n'y avait pas beaucoup d'informations sur ces questions. Ça aurait été passé comme... le pouvoir avait l'habitude finalement de réprimer, hein, pas seulement pour ces histoires-là, mais bien avant, 76, 78, le fait berbère lui-même, écrire le tifinagh par exemple, c'était un tabou. Hein. Moi j'étais au lycée, c'était interdit de l'écrire. C'était pas affiché à quelque part comme quoi c'est interdit de l'écrire, mais on a intériorisé cette interdiction et même, ce qui est plus grave, on avait intériorisé finalement que c'est une langue illégitime. Et ils commençaient à atteindre les Kabyles eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que ce que vous disiez tout à l'heure, dans l'Aurès, se produisait en Kabylie. Et un des acquis, si vous voulez, du mouvement berbère, c'est d'avoir arrêté ce rouleau compresseur qui faisait que les Kabyles, quand ils arrivaient à Tizi Ouzou, par exemple, et Tizi, c'est une ville qui était presque arabisée en 1981, elle était en voie d'arabisation totale. Bourdjoum Naïl, c'était entièrement... C'était le berbère... subsistait encore en campagne, en montagne. Mais à Alger, c'était à moins qu'on vous ait en groupe, et c'est ce qui faisait que les Kabyles se regroupaient, par exemple à Ben Aknoun, dès qu'ils sont à l'extérieur, à Oran, ils sont regroupés parce qu'ils avaient peur, parce que la répression était... Donc ils étaient obligés de se regrouper, ils étaient tout le temps obligés de se solidariser, vous voyez. Et en même temps, la répression à l'époque culturelle le pouvoir n'avait pas besoin de frapper, d'interdire, pour interdire, pour obliger les gens, les ramener. Au contraire, parce qu'il y avait beaucoup, et beaucoup de Kabyles avaient participé à cette répression.
Ma question, la réponse à ma question, elle est pas directe. Moi, j'aimerais bien avoir une réponse. Est-ce que le fait que le pouvoir, par peur, on va dire l'intellectuel, il vous dites qu'il a fait des conférences et tout ce qui suit, donc les conférences étaient tolérées, non autorisées, parce que ça n'avait pas d'impact sur le pouvoir. Le jour où les conférences, d'après votre discours, ce que j'écoute, le jour où les conférences pouvaient avoir un impact sur la perte du pouvoir du dirigeant. Et la question, c'était, est-ce que c'est ça la...
Est-ce que, en fait, la question, est-ce que une conférence, cette conférence en particulier, pouvait menacer particulièrement à ce moment-là le pouvoir ?
Absolument. C'est une très bonne question parce que question, quand on la réduit à ce que vous dites, c'est-à-dire est-ce que finalement on avait peur d'une conférence ? Le pouvoir n'avait pas peur de la conférence. Il pouvait la manipuler pour Mamry. Il était directeur du CRAP. Il venait juste de partir en retraite. Il dirigeait un centre de recherche. Mamry était directeur, président de l'Union des écrivains algériens jusqu'à 68, d'où il a démissionné. Et il n'était pas un personnage isolé, etc. Il publiait,
il était connu.
Même en Algérie.
Il n'était pas de répression.
C'était pas cette répression. Et d'ailleurs, la question nous amène à ce que je disais au départ sur le 2 mars. C'est-à-dire avant le 10. Parce que dans cette interview, Mouloud Mamry avait déclaré finalement, je résume un peu l'entretien, il disait aux journalistes Didier Riban, finalement, vous voyez, que ce soit le régime socialiste révolutionnaire ou bien au Maroc, un régime royal, vis-à-vis de la question berbère, c'est les mêmes. Et ce qui me fait penser, à mon avis, c'est que le pouvoir voulait faire une démonstration de force, comme il aimait le faire. C'est-à-dire, voilà, je suis capable, effectivement, vu ce que vous avez déclaré à Libération le 2 mars, il voulait, effectivement, par l'interdiction de cette conférence, faire une démonstration comme quoi je peux vous interdire de parler, etc. Pourquoi ? Parce que dans le billet de Kamel Belkacem, qui est sorti à peu près vers le fin mars ou début avril, je ne sais plus, ce billet de le rédacteur en chef. Voilà, les donneurs de leçons, absolument. Dans ce texte, si vous regardez de très près, vous allez voir qu'à un moment donné, Kamel Belkacem parle de quelque chose, il dit, pour un auteur qui confond la monarchie avec la nation révolutionnaire. C'est parce que effectivement, ils font un lien avec cet entretien du 2 mars. C'est pour ça que cet entretien est très, très important. Ce n'est pas finalement des personnes qui sont réunies à Tizi Ouzou dont ils savent très bien que c'est à peu près des étudiants qui vont effectivement... Ils étaient en grève 2 jours auparavant. L'université Tizi Ouzou était en grève juste avant le 10 mars. Et puis, il aurait fait une conférence. On est au printemps. Les étudiants vont sortir comme d'habitude, aller sur le gazon de l'université tranquillement, etc. Ce n'est pas par rapport aux étudiants. C'est par rapport à Mamry et notamment ce qu'il avait déclaré sur, effectivement, d'abord sur les attitudes des deux pouvoirs en Maghreb, notamment marocain et algérien, vis-à-vis de cette question berbère. Et deux, je crois qu'à l'époque, il y avait quelques phrases extrêmement dures vis-à-vis de la tendance, vis-à-vis du rapport. Il disait que l'islam était bloquant pour quelque chose. Dans cet entretien de Mamry avec Didier Riban, donc les questions étaient, on disait tout à l'heure, il faut contextualiser. Cet entretien s'est fait en 80, mais on est en 79, la révolution iranienne. Donc en France, c'est comme aujourd'hui. On parle effectivement on ramène beaucoup de choses à l'islam quand il s'agit du monde arabe, d'Afrique du Nord, etc. Donc les questions sur l'islam, c'est pour ça que je pense que l'entretien de Libération, je commençais à le dire tout à l'heure, est très central pour comprendre la psychologie, la préhistoire, si vous voulez, de cette
interdiction.
Interdiction. Parce que des universitaires, le pouvoir n'a jamais... Ils l'ont manipulent. À l'époque, il est arrivé à l'époque... il est arrivé à un moment où le pouvoir n'avait pas besoin de manipuler pour manipuler. Il y avait des gens qui étaient candidats qui lui disaient « Voilà, je ne suis pas manipulé, moi. »
On va passer à... On va passer, entre-temps, là, on a bien invité, et entre-temps, Nora qui travaillait, qui n'a pas pu arriver, plutôt. Nora, qui est fondatrice, présidente de l'association culturelle à Marseille, et qui s'appelle la FK13, association franco-kabyle des Bouches-du-Rhône, la seule association, parce qu'il y a plein d'associations, il y en a, mais c'est la seule association qui anime depuis plusieurs années un cours d'enseignement du berbère à Marseille. Elle pourra peut-être tout à l'heure annoncer que c'est tous les samedis. Hein, tous les samedis. Alors, on n'a pas le temps de... Il y a beaucoup de sujets qu'on n'a pas encore abordés. On donne juste à Nora. Sur le printemps 80, quelle incidence sur... ton parcours de militante et jusqu'à créer une association à Marseille. À quoi servirait une association à Marseille?
D'accord.
Et puis on revient avec notre ami Kamal Chachoua. Puis à Nordin Bouder qui attend. Oui.
Donc, Azul Flaoun, Thanemirth et Bouzid Midnjdot, merci. Et bonsoir tout le monde, bien sûr. Donc, la question, je peux répondre juste approximativement.
C'était trop jeune.
J'avais 10 ans. J'avais 10 ans. Mais j'ai des très, très bons souvenirs. En fait, j'ai grandi dans une famille de militants. Donc, j'ai vécu cette période...
En 80.
Exactement. Donc, mon oncle, qui était vraiment un vrai animateur, un bon animateur même de, de ce printemps berbère. Donc, c'est M. Slimane Amara, le président de l'ACB, la première association berbère de Paris. Donc, l'ACB... voilà, tu le connais, Bouzid.
Oui.
Donc, j'ai vécu ça, bien sûr, quand je me rappelle de 80, ça me rappelle aussi le printemps noir, mais pas pareil, mais on a eu quand même la même douleur, la même souffrance.
Oui, on reviendra sur le printemps noir que tu as vécu en Algérie.
Oui, oui.
D'accord. On reviendra
J'étais même animatrice du printemps
noir. On reviendra sur le printemps noir, puisque sur 2000. Sur 80, tu étais trop jeune, mais ça t'a quand même marqué.
Oui, ça m'a marqué parce qu'en fait, on avait peur. On avait mon cousin, puisque en Kabylie, dans les villages, on vivait ensemble avec cousins et cousines. Donc, et les Thélésiens, donc tout le monde, toutes les mamans, toutes les grand-mères, toutes les familles avaient peur justement de perdre leurs enfants, puisqu'on savait pas on savait pas ce qui s'est passé dans les lycées. C'était des internes, donc on savait qu'il y a des attaques contre les lycées, contre les universités, surtout le 19 avril, un jour comme aujourd'hui, bien sûr. Donc, ils ont attaqué des universités, des étudiantes, des étudiants qui étaient sur place à 3 heures du matin. Donc, tout le monde avait peur. Tout le monde avait...
Tu as vécu ça.
Je l'ai vécu. Je me souviens parce que mon cousin n'avait pas ni de père ni de mère. Donc, il vivait avec nous. Ma grand-mère, elle pleurait. Elle est décédée tellement on n'avait aucune nouvelle.
Il était étudiant à ce moment-là.
Elle était étudiant au lycée de chez Hani Bachir Azazga.
Oui.
Donc, on a vécu la souffrance totale. On a pleuré. On croyait qu'il était mort parce qu'on n'avait pas de nouvelles de lui pendant 10 jours.
Donc en fait, même jeune, ce printemps berbère n'a pas touché que, évidemment, hein, on le sait, que le milieu étudiant, mais il a eu des répercussions jusqu'au canoul, jusque dans les foyers, jusque dans les maisons, dans les maisons et dans les lycées, au lycée aussi.
C'est ça, on a fait des manifs, j'ai participé à 10 ans, on suivait, on a fait des manifs de partout.
On reviendra sur 2001, Nora. Il faudrait quand même capter la suite de ce 10 mars où il y a eu cette interdiction. Au moins, alors on n'a pas le temps évidemment d'aborder toute la chronologie du printemps berbère qui a duré jusqu'en juin.
Oui, 24 juin.
Jusqu'au 24 juin. Donc on est mars, avril, mai, juin. Hein, on est presque sur... 4 mois. Je vais lire un petit passage surprenant. Tout peuple a le droit de parler sa langue, de préserver le développement de sa culture, contribuant ainsi à l'enrichissement de la culture de l'humanité. Article 13. Donc vous comprendrez que c'est un texte institutionnel. Tout peuple a droit à ses richesses artistiques, historiques et culturelles. Tout peuple a le droit de ne pas se voir imposer une culture qui lui soit étrangère. Lorsqu'un peuple constitue une minorité au sein de l'État, dans Acta, minorité au sein de l'État, évidemment c'est un texte algérien, il a droit au respect de son identité, de ses traditions, de sa langue et de son patrimoine culturel. Tout peuple dont les droits fondamentaux sont gravement méconnus a le droit de les faire valoir, notamment par la lutte politique, syndicale et même, en dernière instance, par le recours à la force. Je lis ce qui était écrit. Le rétablissement des droits fondamentaux d'un peuple, lorsqu'ils sont gravement méconnus, est un devoir qui s'impose à tous les membres de la communauté internationale. Devinez d'où sont extraits ces passages. C'est tous des articles, hein, 13, 14, 15, 19, 20 et 30.
La charte nationale.
La charte nationale. Cette vaste consultation de l'Algérie, hein, de l'Algérie profonde. 1976, où tous les Algériens pouvaient participer dans toutes les communes d'Algérie à ce débat. Alors, dans la journée, je pensais que c'était le débat de Macron 40 ans avant, vous vous rendez compte, sous un régime autocratique, parti unique, 40 ans avant. Alors, j'en viens juste, parce qu'on ne va pas analyser la charte nationale, mais on revient à 80, de mémoire, les slogans les plus importants. C'était « Thaqafa Shabiya Démocratia » à Alger, puisque bon, j'ai eu, par accident peut-être, j'étais étudiant à Alger, donc j'ai vécu ça aussi. Donc il y avait quand même ce slogan « Thaqafa Shabiya Démocratia ». Et donc il y a la question de la culture et de la démocratie, ce qu'on a souvent tendance à rapporter 2001 seulement à la question de Tamazirt. De la 80, place de Tamazirt. 80.
D'accord.
Oui. C'était Thaqafa Shabiya Démocratia. Et, sous-entendu, les deux langues algériennes perçues comme telles, Tamazirt et l'arabe ou le dit arabe algérien. Juste sur cette revendication qui est partie de l'université d'une conférence sur la poésie kabyle ancienne, et qui, après, à travers les pancartes et les slogans, sans parlant, parle de culture, de démocratie, dans un contexte de parti unique et d'interdiction d'expression plurielle.
Elle a porté plus que sur ces revendications, parce que j'ai manifesté à ce moment-là, j'étais lycéen à l'Arbane de la Force nationale. C'était d'abord ma manifestation, ma première manifestation de plein air. C'est la première fois que j'ai vu une manifestation, que j'ai fait une manifestation. C'est incroyable. C'est la première fois que je vois finalement que la rue est faite pour manifester. Dans une petite ville, l'Arvane Thirathun, qui est une petite daïra, entre collégiens et lycéens. Et à ce moment-là, pour les slogans, oui, c'était un peu autre chose. Hein.
Oui.
On criait beaucoup plus, plutôt se casser que se plier.
En Arzoual Al-Khinou, il y en avait d'autres, bien sûr.
Mais aussi, il y avait « Mamri est innocent ». On criait « À bas la répression ».
À bas la répression, voilà.
Surtout,
bien sûr, il y avait d'autres slogans.
Il y avait quelques slogans qui revenaient, qui étaient criés, si vous voulez. Parce que tout dépend où. Parce que comme là, Thaqafa Shabiya, etc., j'imagine que c'est Alger, en arabe,
Alger, oui,
etc.
Oui, oui.
Mais à Tizi, il y avait des banderoles, oui, il y avait... d'autres slogans qui étaient importants. Mais la démocratie et la culture, c'était très, très lié. Bien sûr, la démocratie et la culture, puisque c'est la tolérance, par définition. Hein. La démocratie, c'est la tolérance et la pluralité d'expression.
Et en écho, Kamal Chachoua, au texte de la Charte nationale, c'est-à-dire qu'il y a un régime, un pouvoir qui fait un grand débat, qui consigne quand même certaines choses, hein, qu'on retrouve ces choses-là dans la Charte nationale, qui restitue, et qui, finalement, après la mort de Boumediene en 79, fin 78.
Ouais. Hein, décembre 78.
Décembre 78. Et deux ans après le printemps berbère, eh bien, tous ces articles qui pouvaient éventuellement permettre... est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre le discours institutionnel...
Toujours jusqu'à maintenant. Hein, vous, le discours, c'est...
Comme je vois qui enseigne en sciences politiques.
C'est la contradiction, ça, c'est entre ce qu'on dit, c'est-à-dire le discours et les actes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce qui se dit tout à l'heure, hein, dans les rues d'Alger, etc. Exactement. Ils disent, effectivement, j'ai vu tout à l'heure Maître Bouchachi, j'ai vu aussi des papiers dans la presse, etc., qui disaient, effectivement, arrêtons avec le discours, il faut passer aux actes, etc. L'Algérie a ce rapport officiel. C'est une culture, hein, et c'est un rapport à l'État qui est bâti sur ce complexe de l'écriture. Le pouvoir a le complexe lui-même de l'officiel. Et pourtant, il est lui-même l'officiel. Mmh. Il se plie, si vous voulez, dans la phrase qu'il est lui-même en train d'écrire. Et il est... c'est comme si, quand vous conduisez, vous dites effectivement, je respecte le code de la route tout le temps, je m'arrête même quand il n'y a personne. C'est une chose extrêmement difficile et impossible d'être strictement... respecter strictement la loi. C'est vraiment un esprit qui ne respecte pas la loi. Parce que si vous êtes là, si on respecte tous la loi d'une manière très stricte, eh ben, on va, le monde sera bloqué. Hein. Voilà, le respect strict des choses, ça étouffe. Voyez. Et ce rapport à l'écrit dont on parle, parce que l'Algérie est véritablement une société orale, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de langue dialectale, de la poésie, etc., jusqu'aujourd'hui. Même ces élites ont un complexe qui perdure jusqu'aujourd'hui, hein, à l'égard de l'écriture et à l'égard des langues. C'est pour ça d'ailleurs que l'arabe, c'est de l'arabe oriental égyptien. Et il y a un souci à parler bien français qui m'a toujours frappé en Algérie. Et quelquefois, quand j'écoute des vieux Kabyles parler français, j'ai mal aux oreilles, parce que vraiment, c'est un accent à la fois qui vient probablement de mon appartenance à une minorité dominée, linguistiquement parlant, et culturellement parlant, mais aussi, quand vous voyez quelqu'un en train de parler français avec beaucoup de correction, vous voyez, qui parle comme un livre, comme on dit, c'est parce qu'effectivement, il a un rapport quasi religieux à la grammaire et à la langue.
Kamal Chachoua, le temps file plus vite que prévu, comme toujours, hein, dans ces émissions. On a évoqué quelques slogans. On a évoqué toi-même, hein, à bas la répression. Mais il me semble que ce slogan est survenu, sinon a été amplifié, après une répression qui est restée dans les annales, où il n'y a pas eu de mort, celle du 20 avril, à 1h du matin, où l'opération Mizrana est déclenchée, les forces de répression envahissent tous les lieux occupés. C'est vrai que les manifestants, les citoyens, il y avait une grève générale à l'usine de Dalab El Khadda, à l'hôpital et à la cité universitaire. Voilà, université. Les étudiants, surpris dans leur sommeil, sont assommés dans leur lit. Je lis une chronologie. Hein. Les chiens sont lâchés sur les fuyards. Des étudiants sautent des étages de la cité universitaire en slip. Des professeurs sont arrêtés à leur domicile. Tout le personnel de l'hôpital, médecins, infirmiers, est arrêté et remplacé par des médecins militaires. Des rumeurs font état de 32 morts et plusieurs centaines de blessés. Bon, je ne lis plus. Nous, on était à Alger. C'est vrai qu'on nous disait il y a un mort, il y a deux morts, il y a eu des morts. Et il n'y a jamais eu de mort dans cette répression de 80. Il n'y a pas eu de mort. Mais une rumeur a circulé. Comment? Par qui? On ne sait pas. Enfin, on ne sait pas, c'est peut-être pas le sujet. Il n'y en a pas eu. La Kabylie était coupée du monde, interdiction d'accès à tout le monde et aux journalistes en particulier. Alors, la répression. Est-ce que c'est important? Enfin, c'est un fait important.
Bien sûr,
surtout,
bien
sûr. Parce qu'on va revenir rapidement
si
à l'actualité.
Là, si on est là le 19...
À 88, où il y a eu des morts, et à 2001.
Alors, si on est là aujourd'hui, oui. C'est parce que justement, la nuit du 19 au 20, que se sont passés ces faits dont...
C'est pour ça que le printemps berbère est resté sous
et
cette
surtout,
date.
Surtout, c'est à cause de cette répression,
oui.
Cette répression que la date est retenue. Finalement,
le 20 avril.
Parce qu'après, il y a eu la marche du 7 avril, il y a eu des dates un peu... C'est pour ça qu'on fête, par exemple, le 20 avril au lieu du 10 mars. On peut bien... L'esprit commun, si vous voulez, aurait retenu le 10 mars, le jour de la conférence, etc. C'est beaucoup... Si la date est retenue, c'est la date du 19 mars. Du 19 avril, c'est un vrai lapsus par rapport au 19 mars. Et moi, j'ai un souvenir terrible, parce que je vais dire peut-être qu'on a oublié les villages. Je peux en oui. témoigner, parce que je vivais dans un petit village très modeste et très petit, et en même temps, même pas électrifié à l'époque. Et je me rappelle le 19, quand effectivement il y avait cette information était arrivée au village. On avait deux étudiants à l'époque à l'université. Il y avait, dont un était fils de Shahid et l'autre était orphelin de père. Vous voyez, les deux n'avaient pas de père, n'avaient que des mères.
Et
je me rappelle de ces deux vieilles. Je les vois comme aujourd'hui. Il y a une qui a lâché son seau à la fontaine, allé chercher l'autre. Elle savait qu'elle allait venir avec elle et qu'ils sont sortis toutes les deux, les cheveux presque en l'air. Oui. Vous voyez, le foulard tombait à l'arrière avec sa robe kabyle, un bâton à la main, et sont partis toutes les deux.
Elles sont parties où ?
À l'université. C'était le matin du 20 avril.
Ah, le matin du
20 alors que les hommes, le village était en silence. Oui. Il y avait des hommes dans la place du village qui les voyaient partir une derrière l'autre avec un... Qui les voyait partir, et la première était vraiment avec un bâton qui avait à peu près sa taille, et elles sont parties sans se poser aucune question. Et le soir, elles sont revenues avec les coups de 19h, je me rappelle, elles sont revenues avec les deux étudiants qui étaient derrière elles. Vous voyez, et cette femme est une veuve de Shahid qui est décédée il y a une dizaine d'années.
Quel témoignage poignant.
C'est le seul souvenir l'image. Terrible qui me reste. Et je dois dire, peut-être il ne nous écoute pas ici, mais ce fils, Akili, qui est aujourd'hui professeur de mathématiques à l'Université de Lyon, voyez, c'est pas anodin pour... C'est des femmes, alors que les hommes du village...
étaient tétanisés.
Étaient tétanisés, mais elles n'avaient pas... C'est leurs enfants, parce que c'est des fils uniques. Je me rappelle aujourd'hui de disparaître dans le virage, le dernier virage du village, toute seule. C'est
beaucoup d'émotions, Kamal, dans ce témoignage, je le sens.
Sûr,
hein, c'est
sûr,
le chercheur qui cherche, qui sort de, qui sort de sa coquille de chercheur universitaire. Mais il y a des moments comme ça qui marquent, et ça nous rappelle la place de la femme. Oui, la répression, évidemment, et la place de la femme à l'avant-garde quand il faut.
Alors, je vais vous dire, effectivement, peut-être, et là, peut-être par rapport à la recherche dont vous parlez, j'ai suivi quelques travaux sur, par exemple, l'universitaire de recherche sur le mouvement berbère.
Oui.
J'étais toujours frappé par l'absence des femmes, par exemple.
Sur le mouvement berbère.
Sur le mouvement berbère. Il y avait une cité universitaire des filles. Hein. Mais si vous cherchez dans tout ce qui est publié, lisez Avril 80 de la Lumière, etc.
Il y a pas dans les manifs. D'étudiants.
Non, je veux dire aujourd'hui dans l'histoire du mouvement qu'on est en train de reconstruire.
Dans l'histoire.
Dans ce que des livres qu'on lit, etc.
On ne parle pas beaucoup des femmes. Oui.
C'était frappant qu'effectivement, je ne sais pas où sont les étudiantes.
Les étudiantes, même les femmes étudiantes de cette époque.
Oui, il y a Malika Ahmed Zaïd, effectivement, qui est l'épouse de mais c'est l'exception.
Je pensais qu'elle était avec même Mouloud Amali quand ils l'ont arrêté.
Non. Quand il était arrêté, non. C'est
Kamal,
Salem Shaker.
Il est 7h30. Et l'émission se termine à 8 heures. Évidemment, on n'a pas abordé tout. Un mot avec Nordin, parce qu'on a évoqué tout à l'heure la création de l'École des Beaux-Arts.
Oui.
Et son parcours d'artiste, je dirais, engagé.
Oui. Moi, je crois que l'École des Beaux-Arts était...
L'École des Beaux-Arts de Azazga.
Azazga.
Sa fondation, sa création, oui.
Parce qu'Azazga, en arabe, c'est que...
Azogun.
À chaque fois, Azogun. Oui, donc elle s'inscrit aussi dans cette volonté, dans ce besoin qui a donné le 10 mars 80. Parce que, comme on a pensé avec nos amis, on n'était pas encore... Oui. Ah oui, d'accord. Bon, voilà. Avec Asla, Ahmed Bacha...
Tu tires un peu le...
Bon, ouais. Voilà, bon, c'est comme la NASA ici. Bon, voilà. Oui, donc on était donc avant 88, et donc, on a toujours... Moi, j'étais sur le dossier École des Beaux-Arts à La Rouate.
Si tu permets, oui. Il faut rappeler que une seule École des Beaux-Arts en Algérie.
Non, il n'y avait pas qu'une seule. Il y avait Oran... Il y avait Constantine, voilà, il y avait Alger.
Oui. Il y avait donc Alger, Oran, oui. Constantine.
Oui. Après, on a commencé à ouvrir quelques annexes. Et moi, je travaillais sur le dossier de La Rouate. Et dès qu'il y a eu donc, octobre 88, j'ai lâché le dossier de La Rouate. Et je dis maintenant, on va ouvrir en Kabylie.
Une annexe de l'École des Beaux-Arts d'Alger.
Il y avait toujours un besoin, mais on savait qu'à l'époque, il était interdit de même si c'est pas dit comme ça, mais en tout cas interdit de doter la Kabylie d'un outil culturel fort ou d'une industrie de pointe, voilà, il fallait pas en Kabylie. Et là on a sauté, on a eu qu'une feuille 21-29-7 l'autorisation. Après il fallait chercher le terrain, il fallait chercher l'argent. On a fait beaucoup de volontariat pour faire cette école. On travaillait tous. Je me rappelle que je disais aux... Quand j'allais du village en village pour ramener les pierres et faire quelque chose, je disais, écoutez, si vous voulez une école des Beaux-Arts, il faut savoir que les Chinois, ils ont fait une muraille de milliers de kilomètres. Moi, je vous demande de venir rendre visite à cette école et que chacun des visiteurs qui viendront dans notre école, ils ramènent une pierre avec. Qui ramène une pierre?
Donc, c'est une école qui a été fondée en 89.
En 89, on a commencé. C'était un chantier C'était des chalets.
Et l'ouverture de l'école?
Moi, on a commencé, puis je dis, on ouvre en même temps.
Avec les chalets.
Parce que moi, je disais aux étudiants, ici, vous avez la chance d'être étudiant et bâtisseur. Et on a fait même des expériences avec Bacha, il va raconter tout. C'était à l'époque où il n'y avait plus de rang en Algérie. Donc on a dit, écoutez, nous avons des merveilles qui sont Tassili. Des merveilles qui sont Tassili, ce n'est ni de la peinture qui vient de France, ni d'Angleterre, ni d'ailleurs. Donc on va faire comme eux. On a ramené des gens qui fabriquaient le papier, on a montré comment faire le papier. Comme ça, on ne l'achète pas de France. On a fait des encres, on a fait des couleurs, avec les herbes, avec les pierres, et on a fait, je me rappelle, j'ai dit que chacun, nous sommes en Kabylie, je crois que tout le monde a une chèvre chez lui. Ramener des poils de chèvre, on va faire des pinceaux. C'était un peu, voilà.
Vous avez fait tout ça.
On a fait tout ça.
Et juste une dernière question sur...
Oui.
Parce que je vois aussi beaucoup d'émotions sur cette entreprise, cette initiative, dans la vie de Nordin. Hein, oui. Parce qu'on connaît l'artiste. J'allais dire calligraphe, mais tu n'aimes pas ce mot.
Je n'aime pas ce mot. La calligraphie a toujours été au service de ce qui nous a mis vraiment dans cette situation. La religion. Parce que si on n'avait pas eu cette religion, ni même d'autres, la religion, mais surtout l'islam, c'est un handicap, vraiment. Voilà, bon.
Bon, mais tu fais, alors si on n'appelle pas ça calligraphie, tu as des œuvres autour de la langue.
Oui,
de la langue.
J'aime bien le mot, en fait, le mot calligraphie, c'est du grec. Oui. Et moi, je l'appelle calligraphisme, pour l'enlever à la calligraphie.
D'accord.
Je fais le geste me plaît. J'ai toujours dit que l'islam nous interdit de représenter le corps humain. Mais le berbère, lui, d'ailleurs, ceux qui font la grande civilisation qu'on appelle à mon sens, à tort, civilisation arabe, elle a été faite par des non-arabes. Et donc, dans la belle courbe de la lettre dite arabe, il y a la sensibilité de mes aïeux. Alors, comme je ne peux pas représenter le corps humain, j'ai 28 lettres qui sont 28 belles femmes qui dansent devant moi.
28 lettres arabes.
Oui.
De la langue arabe.
Oui, alors je...
Donc tu crées des œuvres en langue arabe aussi.
C'est le geste.
C'est le geste.
Je fais beaucoup de chinois, j'aime beaucoup le...
Chinois, oui.
Oui.
Et Tifinagh.
Et la lettre latine, oui.
Et Tifinagh, donc dans tous les caractères.
Oui.
Tous les caractères.
Oui.
Voilà, on a abordé juste une dernière question. L'École des Beaux-Arts, elle forme par an combien d'étudiants?
Je ne sais pas.
À peu
je
près.
Ne sais pas maintenant, mais à l'époque, bon, disons, par an, la promotion, elle est de 30, on acceptait à peu près entre 20 et 30. Oui.
Oui, donc ça fait depuis 89-90, ça fait des centaines d'artistes qui sont sortis de l'École des Beaux-Arts, qui fonctionnent toujours.
Ça a été une douleur pour moi, donc je ne...
Alors, on va juste dire que 1980, évidemment, n'a pas été, je dirais, stérile. 2001 a permis beaucoup de choses, quelques concessions, je dirais, du régime et du pouvoir, quelques initiatives citoyennes avec la création du MCB, de la Ligue des droits de l'homme, quelques emprisonnements aussi pour ces animateurs et peut-être probablement un impact sur l'ouverture politique de 89, l'ouverture démocratique, dite démocratique, où à Alger, et on a quand même on a comptabilisé déjà 500 morts. C'est les chiffres qui sont officiels ou officieux à Alger, dans cette répression de 88. On sait ensuite comment cette ouverture, cette parenthèse démocratique s'est vite refermée. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Et entre-temps, la mouvance berbère dans les années 90 a fait, je dirais, dans toute l'Algérie, résister et lutter pour que on revienne à un État non théocratique. Et on arrive en 2001. Il faut rappeler que le président Bouteflika a été élu en 99 pour le premier mandat et que dès 2001, avec peut-être beaucoup d'espérance de changement, comme maintenant, et que 2001, il y a eu cette répression suite, entre autres, à l'assassinat d'un jeune dans un commissariat de la gendarmerie à Benidoala, donc Massinissa Germah, le premier, on dit, martyr de ce printemps noir. Alors, Kamel Chachoua ou Nora, rapidement, une réaction sur ce printemps amazigh de 2001, le printemps noir.
Oui, c'est le printemps le plus douloureux de ma vie. Hein. En fait, quand on parle de Germah Massinissa, le même jour, il y avait l'assassinat, bien sûr, à Benidoala de Germah Massinissa, mais à Misour, ils ont arrêté aussi des jeunes. Le 22 avril, donc toute la population kabyle, elle est sortie dans la rue, surtout les jeunes, les lycéens, les collégiens, pour justement dénoncer cette... En fait, c'était pour provoquer, parce que c'est pas par hasard, parce que tu as dit, il est arrivé, il voulait faire des choses, Bouteflika. En fait, avant d'être élu, il nous a menacés dans ses campagnes électorales que Tamazir ne sera jamais officiel, et même national, ça sera par référendum. Donc tout ça, c'était une bombe à retardement. Donc c'est ce qui a provoqué nous 20 avril. Donc c'est normal, chaque 20 avril, on le célèbre, on le commémore, bien sûr. Donc là, moi, le 22, on est sorti dans la rue pour dénoncer justement l'assassinat de Guelma Massinissa, alors qu'on préparait le 20 avril 80.
Les festivités du 20 avril.
Les festivités de 20 avril. Donc le 28, c'était là qu'ils ont commencé à tirer avec des balles réelles explosives. Donc,
des balles réelles explosives.
Exactement. Oui. En fait, c'était la guerre, un esprit de guerre totale. Les jeunes avec du foulard, du vinaigre, avec des petites pierres pour dénoncer leur colère, pour dénoncer tout ce qui s'est passé en Kabylie. Mais eux, ils ont quand même réprimé ces jeunes, mais surtout avec des balles explosives. Ils ont assassiné. Moi, d'ailleurs, j'ai vu la première victime de ma région. Elle s'appelle Saïd Arzouani. C'est le 28. Et c'est il est issu d'une famille pauvre. Il n'a pas de père aussi. Donc, le destin...
Combien de morts au bout de cette répression?
En fait, moi, dans ma région déjà, il y avait 5. En fait, au début, c'était...
Non, dans tout le mouvement, les chiffres...
La première partie en avril, c'était 50. Mais après, avec les manifs mai, juin, on est arrivé à 127. Mais la 128e, c'était après deux années. Il était blessé, donc il a...
Donc,
il a
80, il y a eu une répression, mais pas de mort. Mm-hmm. Les agents de la répression n'ont pas commis de mort, hein, pas, ni par balle, ni, même s'il y a eu une répression féroce. 88, ce n'était pas un mouvement ou des manifestations liées à la question Amazir.
C'était pour la démocratie.
C'était Alger, pour la démocratie.
C'est toujours les
Et
mêmes
ça s'est terminé très vite aussi dans un bain de sang. 2001, encore une nouvelle répression contre des jeunes non armés, pacifiques, avec ces 128 morts et 3000 blessés. Un mot sur les Aurès. 2001 et les Aurès, Jamal, rapidement.
Juste un petit rappel de ce qui s'est passé dans les Aurès, c'est-à-dire le fait que les événements ont commencé dans la Kabylie après l'assassinat de Guelma Massinissa. On a compris, par rapport aux leçons du passé, qu'il ne faut pas laisser la Kabylie isolée. Donc il y avait un groupe de jeunes de Tkout qui sont partis en Kabylie pour soutenir leur frère Kabyle et faire des liens. Et c'est pour un peu élargir, à l'époque, ce qu'ils appellent la roche, mais après, on a changé vers le mouvement citoyen, pour l'élargir un peu, qu'il sort un peu de la Kabylie, et il propage un peu
tout. Est-ce qu'il y a eu des morts dans les Aurès?
Ben, il y avait un seul mort, mais ce n'était pas par rapport aux événements, c'était par rapport à une autre stratégie. C'est-à-dire qu'il y avait le lien entre l'Aurès et la visite des Kabyles dans les Aurès, un mouvement citoyen qui sont venus.
Il y a eu des échanges, oui.
Il y a des échanges de visites. Donc je pense que le pouvoir n'a pas apprécié. Il a voulu mettre les Aurès dans un autre contexte et lui donner une autre atmosphère, c'est-à-dire de créer un problème. C'est-à-dire il y avait un garde champêtre, c'est le Hars el Baladi, je ne sais pas comment on l'appelle, le garde communal, qui a tiré sur un jeune, comme ça subitement. Et qu'est-ce que le pouvoir a fait sur place? Il a fait que celui qui a tiré, il est de la tribu des Toubi, et l'autre, il est de la tribu de Bni Bouslimat. Donc, il a voulu jouer sur l'aspect tribal. Donc, pour ce que les tribus s'entretuent entre eux. Et comme les jeunes, on était, moi, je ne vais pas dire moi, parce que même si j'étais avec, on était intelligents, et on a su ça parce que par le passé, ils ont fait la même chose. On a dit tout simplement que celui qui a tué, il représente le pouvoir. Donc pour nous, c'était pouvoir assassin. Et le citoyen, c'est un jeune citoyen. C'est comme ça qu'on s'est déplacé vers la commune de Territ où s'est passé l'assassinat. Et là, on a cassé la caserne des gardes communaux. Il les a fait fuir et on a commencé à pouvoir assassin. Et après, juste une semaine ou deux semaines avant, il y avait une arrestation de 15 jeunes à Tkout. Et ça partit vers autre chose après.
Oui. Alors, en émigration aussi, on ne va pas revenir sur beaucoup de soutien, comme maintenant, hein. À Marseille. Les témoins qui étaient en Marseille, il y a eu un mouvement de solidarité avec contre la répression qui s'est appelé le CCRK, qui a duré tout le temps nécessaire pour dénoncer la répression à Tizi Ouzou et en Kabylie et à Alger. Hein. Oui.
Pardon, mais à Paris.
Et à Paris, bien sûr.
En 80, oui. Il y avait 400 arrestations et qui étaient conduits à Vincennes.
C'est ça.
Exactement le même endroit que 17 octobre 61.
C'est ça.
Elle était interdite.
C'est pour montrer, ça, ils ont interdit, oui, bon,
c'est
80.
Pour montrer à peu près la connivence.
La collusion.
Alors, la collusion, mais en même temps, c'est ce qu'on dit aujourd'hui aussi, c'est que la France, elle est prudente vis-à-vis de Mais bon, on ne voit pas pourquoi il faut... Bon, on dit effectivement qu'il y a une complexité des relations. Le mot complexe est complexe lui-même. Donc, des interprétations. Mais il y avait 400 arrestations à l'époque et une interdiction de la manifestation, je pense, vers le 26 avril ou le 1er mai.
Donc on retrouve, comme maintenant, avec le CATSA, aussi bien en 80 d'ailleurs... qu'en 2001, ouais, qu'en 88, cette identité, ce parallélisme dans les soutiens de l'immigration par rapport toujours à tout ce qui peut toucher aux citoyens, au peuple et aux valeurs et aux projets ou aux rêves démocratiques en Algérie. Il est moins quart. Évidemment, on a commencé plus d'une demi-heure... en retard, hein, donc ça nous a complètement faussé le plan de l'émission. Je voudrais qu'on... Bien sûr, on ne va pas parler des acquis en termes de démocratie, mais toujours, dans un rapport de force, dans les organisations citoyennes, et contre toujours ce système, ce régime qui perdure depuis... 50 ans ou 60 ans.
57 ans.
Il me semble qu'il y a ce bras de fer permanent qu'il s'exprime dans une région ou par rapport aux syndicats, par rapport aux journalistes ou dans le MZAB. On ne peut pas aussi oublier l'entreprise un peu de répression qui s'est abattue dans le MZAB depuis 5 ans.
2015.
Depuis 5 ans. Et on parlait de répression, mais des manipulations aussi. Des manipulations
Attention, c'est dû. Oui. Je pense que c'est dû, on va dire, de la répression qui est datée avec le mouvement national, et qui a été approfondie, aggravée avec le FLN et le contexte de la guerre.
Tu veux dire que le mouvement national était porteur des germes de violence.
Lui-même, il est né dans la répression. Le FLN a repris effectivement exactement la répression coloniale et il avait continué à part ce mépris qui est aujourd'hui dénoncé constamment dans la bouche de chaque Algérien. Il n'est pas de création, ce n'est pas une exagération. C'est quelque chose qui est né exactement avec, j'allais dire, le mouvement national et le FLN lui-même dès le début. Ceux qui croient effectivement que le FLN était, à un moment donné, il n'était pas dans une sorte de mépris du peuple. Ils avaient cette habitude, effectivement, que le peuple, il est là, on lui donne à manger, il n'a qu'à se taire. Et c'est nous qui réfléchissons pour lui et qu'il n'est pas capable. Vous voyez. Alors aujourd'hui, qu'il arrive que le monde regarde effectivement ce peuple, dit finalement il est pacifique parce qu'il a contaminé à l'international. Que effectivement les Algériens sont violents parce que lui-même il les réprime. Je ne vois pas comment ils ne vont pas être violents. Mais à vrai dire, c'est la culture du FLN, je pense, qui est... On peut toujours effectivement...
Du parti FLN.
D'une partie.
Du parti.
Du parti, bien sûr, du Front de Libération Nationale.
Pas le FLN historique.
Le FLN historique, il était comme ça.
Il était comme ça.
Il était comme ça. Du 1er novembre 1954 jusqu'aujourd'hui, le FLN... à cette idéologie. Le
mouvement est parti.
À dire que ce n'est pas comme ça, ce n'était pas comme ça à l'époque. Faire une sorte d'analyse élective du FLN à l'époque, non. Parce que sans cette répression, entre 1954 et 1962, l'autorité même du FLN, même si elle était acceptée par les populations à l'époque, pour des raisons qu'on comprend aujourd'hui, mais c'était dans cette forme de répression. C'est pour ça qu'il ne peut pas la quitter aujourd'hui.
Donc, en fait, le mouvement national est en tout cas le
même... Il est né, on parle de violence coloniale. La violence coloniale, elle a contaminé aussi le mouvement national algérien. Et le mouvement national ne peut pas se décontaminer tout seul de la répression qu'il avait lui-même héritée. Et presque, il a attrapé ce virus.
Les germes de la violence de l'Algérie indépendante, sans antérieure à l'indépendance.
On peut dire effectivement que le FLN, l'ALN, n'aurait pas réussi ce qu'elle avait fait, à s'imposer, donc à écarter tous les autres partis, à avoir l'hégémonie, à tenir les villages d'une manière extrêmement rigoureuse, on peut effectivement faire l'éloge de ça. Mais alors, il faut accepter, il faut accepter que cette culture, elle ne peut pas le quitter en 62. Je ne vois pas comment, d'un jour à l'autre, effectivement, les hommes qui ont été chassés, qui ont été pourchassés, qui ont été suivis, tués, torturés, vont devenir du jour au lendemain des gens qui sont voilà pour l'égalité et voilà, je suis pour la tolérance, etc. Donc, et c'est pour
on
ça qu'aujourd'hui...
On est à 10 minutes de la fin de l'émission. On n'a pas le temps de faire cette analyse approfondie sur, évidemment, sur le mouvement en Algérie. On l'a évoqué parce que c'est une succession, le printemps à Mazir, c'est une succession de mouvements partis à partir des citoyens, des jeunes, avec le rôle des femmes étudiantes, des intellectuels, des universitaires. Et on est dans l'actualité d'un mouvement citoyen, mais qui cette fois-ci n'est pas cantonné à Tizi Ouzou, à Alger, mais qui englobe toute l'Algérie, et on parle de 15 à 20 millions de manifestants tous les vendredis, ce qui est inédit, peut-être dans le monde, et en plus, en l'occurrence, des manifestations pacifiques. Kader.
Je voulais intervenir, c'est-à-dire je reviens sur le mouvement Kabyle. Certes, il y a eu ce que vous disiez par rapport...
Non, Kader. Et on a 10 minutes, s'il te plaît.
Non, mais juste une chose. La question, c'est qu'aujourd'hui, la langue kabyle, c'est une langue officielle.
Donc, Kader. On va pas partir. Kader.
On revient sur le mouvement.
Mais... Non, on a 10 minutes, Kader. Ouais. Et il faut conclure. Tu veux parler du Kaza ou non?
Non, bon, je vais parler que dimanche, il y a une manifestation qui est organisée pour que... Mais il faut... Quand on se combat pour la liberté, il faut laisser la liberté à l'autre de pouvoir s'exprimer.
On n'a plus le temps.
Eh bien, il faut laisser le... On va prendre un peu de temps pour pouvoir avoir cette liberté. Mais cette liberté, c'est toute une jeunesse qui est en train de se battre pour... Et ce n'est pas fini, il faut...
Il faut parler des
dimanche,
du mouvement actuel.
Il y a une manifestation qui est organisée comme chaque dimanche. Oui. Tant que l'Algérie, les gens sortent, que le pouvoir n'a pas quitté, n'a pas répondu aux attentes du peuple. Nous, les Algériens de Marseille, nous souhaitons sortir chaque dimanche à la Porte d'Aix. Il y a ce dimanche une manifestation à la Porte d'Aix. Le rassemblement commence à 14h, de 14h à 15h, qui sera suivi d'une marche jusqu'au Vieux-Port. Nous appelons à
Lens. 16h.
16h.
Oui, Kader m'a dit que c'est 16h.
D'accord.
Donc, rendez-vous à 15h.
Rendez-vous à 15h à la Porte d'Aix.
C'est ce que j'ai lu dans votre tract.
Il y a eu rendez-vous à 15h. Et l'ensemble, enfin, le but pour nous, c'est d'essayer de nous rassembler en étant le maximum de concitoyens issus d'immigration française d'origine algérienne. Parce que cette sortie, cette mobilisation nous permet, nous aussi, diaspora vivant ici à Marseille et en France, d'être un poids politique pour le politique français aujourd'hui par rapport à la division, c'est que le combat, il n'est pas que pour l'Algérie, le combat, il est pour l'ensemble des Algériens et Algériennes, et je sais de quoi je parle, vous savez qu'avec l'union, on arrivera à faire une force. Aujourd'hui, ce qui nous a permis de faire trembler ce gouvernement, c'est que, comme on dit, et comme la population dit en Algérie, pas de Kabyle, pas de Chaoui, pas de Chergui, pas de Tergui, pas de tout ça, tous des Algériens, on se bat tous pour la liberté de l'un et de l'autre. Et quand on obtiendra cette liberté, ce discours-là, pour nous, ça ne sera que du passé qu'on évoquera et qu'on apprendra à nos enfants, car il y a une partie de l'histoire qui ne m'a pas été apprise en tant qu'Algérien. Je l'ai apprise avec vous, je vous remercie.
Donc le Kader, non mais on a quand même 2-3 minutes pour justement consacrer, pas seulement l'annonce de cette marche, le CATSA existe maintenant depuis 2 mois, comité pour... une alternative démocratique et sociale en Algérie. Ainsi a-t-il été nommé. Vous réunissez, vous faites des manifestations. Pourquoi?
Au fait, le...
On regarde des pancartes, des slogans et des gens qui...
Au fait, on organise, des gens, on fait des réunions parce que la plupart des gens viennent tous d'un bord différent. L'ensemble des collectifs et apolitique dans le collectif n'a aucune ambition politique. Et toute ambition politique ou toute ambition associative est à bannir parce que je veille vraiment, je ne donne pas de mon temps. Mais pour nous, c'est d'essayer de dire on est en mouvement par rapport à ce qui se passe en Algérie. Nous remercions les Algériens de nous avoir donné cette possibilité de nous rencontrer aujourd'hui, sans ça, je ne vous aurais jamais rencontré. On serait tous restés terrés dans notre trou et regarder de loin ce qui se passe.
Alors, quelques maîtres mots, Kader, de ce combat là-bas. Comment est-ce que, en quelques mots, tu peux résumer ce combat? Quelques mots forts. Les Algériens sortent dans la rue. Pourquoi? Pour demander quoi?
Liberté.
Voilà, mais c'est ce que... Oui, et d'autres mots, si tu as...
Liberté.
Hein?
Liberté.
Voilà, il y a liberté. Des slogans, Jamal
Nadi. Par rapport aux slogans, c'est des slogans, donc ça reste des slogans.
Tahouga,
exactement. Ça veut dire que tous les Algériens aujourd'hui, quel que soit leur univers, leur courant politique, leur combat, ils ont tous compris qu'ils ont un seul ennemi, c'est bien le pouvoir. Et ce pouvoir, il n'aime pas quelqu'un qui ne lui ressemble pas. Point final.
Voilà. Et c'est très difficile aussi de fédérer. On a vraiment du mal à fédérer l'ensemble de la communauté algérienne ici à Marseille. Pour quelle raison? Pour la raison suivante, c'est que, comme vous avez évoqué, nous avons été conditionnés à être agressifs et violents. Et aujourd'hui, on a épaté l'ensemble de la communauté internationale par le pacifisme et tout ce qui suit, même ici à Marseille. Parce que d'habitude, on est sanguin. Donc, et aujourd'hui, on est dans un calme, on est dans la réflexion, on s'énerve pas vite. Et ce qui a fait que les gens se résignent à ne pas venir avec nous manifester, c'est qu'il y a des gens politiques qui ont fait partie du système politique ici à Marseille, donc je sais de quoi je parle, qui ont déjà été élus ici à Marseille, qu'aujourd'hui cherchent à, c'est très bien, c'est très intéressant ce que je veux dire, qui cherchent à prendre la mouvance, d'essayer de s'organiser à travers ce mouvement, d'où ils cherchent à récupérer des personnalités où il y a eu des conférences, où quand on voit qu'une personnalité comme Yves Bonnet, l'ancien directeur de la DST française, est invité afin de pouvoir éclairer ses lumières, nous avons des lumières algériennes et arabes et kabyles, et nous avons l'embarras du choix chez nous par rapport à l'intelligence, nous n'avons pas besoin de qui que ce soit pour qu'ils viennent nous montrer quel est le chemin. Ça reste entre nous Algériens, on se débrouille entre nous. On a les capacités pour pouvoir faire évoluer notre pays. Chacun peut apporter à l'édifice sa partie de la pierre. Nous avons besoin de tout le monde, de l'ensemble des Algériens et Algériennes, sans exception, de toute confession qu'il soit, de tout parti politique qu'il soit, mais sans qu'il y ait une récupération du parti politique des anciens du FLN ou des anciens partis ou des gens qui... prennent le mouvement, qui s'enregistrent dans le mouvement en étant signataires des autorisations de l'autorisation pour manifester et dire je suis le. Non, personne n'est le peuple. Nous sommes le peuple.
On a compris le message.
Voilà.
Donc cette insurrection, cette révolte, cette peut-être révolution par le peuple, pour le peuple. Alors c'est un slogan à méditer par les scientifiques, les anthropologues et donc on a compris, et je crois qu'il y a la même vigilance en Algérie, pour que cette fois-ci, les clés éventuellement à construire pour cette Algérie, cette Deuxième République, cette Algérie nouvelle, cette Algérie qu'on voudrait démocratique et sociale...
Et unie, surtout.
Et unie autour d'un projet consensuel... Eh bien, il faut maintenant se poser des questions des étapes suivantes, et notamment des modalités qui vont faire que, parce que j'avais pas perdu un peu le fil là, que le mouvement citoyen qui a été le ferment et qui est sorti dans la rue en dehors apparemment des partis politiques. C'est toutes les générations, pour que le mouvement citoyen ait sa place et que les anciennes figures de ce pouvoir ne reviennent pas. Je pose une question.
Ben nous, les anciennes figures, en fait, on n'en veut pas du tout. Mais par contre, il y a des gens qui sont neutres et qui sont propres parmi les anciennes figures, où leur conseil il est le bienvenu, mais leur participation de près ou de loin, on n'en veut pas.
La mobilisation est...
Alors, juste un dernier mot, Kamal.
Oui, la mobilisation est quelque chose de tous les jours qui doit normalement être pensé, même qui ne doit pas se donner une limite.
c'est-à-dire celle de la fin des demandes qui sont faites, etc. C'est-à-dire, c'est la mobilisation permanente. C'est celle-là qui manque finalement, pas seulement un dimanche pour
une
les nécessités pour une période. C'est-à-dire, les enseignements du passé font qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'il ne faut jamais baisser la crosse.
Ah ben ça, on le sait. Ça...
Et comme disait Mamri, d'ailleurs,
oui.
Il avait cette phrase dans cet entretien avec Tarjaout. Il disait, quel que soit le terme, quel que soit le lieu où le terme m'atteindra, je partirai avec la certitude chevillée que mon peuple est celui des autres, que c'est vers sa liberté que mon peuple et celui des autres ira.
Ouais, on va rester.
La liberté est effectivement, c'est quelque chose d'inévitable. Il n'y a que je pense qu'il n'y a que des ignorants qui peuvent aujourd'hui imaginer que les peuples iront vers une sorte d'oppression, etc. La marche vers l'humanité, la liberté et la démocratie, c'est la marche de l'histoire. Et aller se mettre un obstacle contre cette chose, c'est comme si vous vous mettez devant un tsunami, vous voyez, c'est peine perdue. C'est ça que, effectivement, malheureux de voir, des hommes qui ont 77 ans, aujourd'hui, à Alger, au pouvoir, n'arrivent pas à avoir cette leçon aussi élémentaire que finalement la volonté collective et dépasse, ce n'est pas une volonté.
Parce qu'ils n'écoutent pas, tout simplement.
Alors, merci à tous. Merci, c'est une excellente conclusion avec cette citation de Mamri et dans son entretien avec Tarjaout sur... cette ambition et cet idéal de liberté.
La cité du soleil, absolument. La cité du soleil.
La cité du soleil. Ah, c'était dans la cité du soleil, d'accord. Ouais. Il est 20h sur Radio Galère, 88.4. Merci d'avoir écouté et suivi cette émission. Merci à Radio Galère et à notre responsable de la régie.
À Sidi.
J'ai pas entendu.
Sidi. Sidi.
Oui, Sidi. Merci voilà. Pour la qualité de son accompagnement technique. Merci encore à Radio Galère qui reste ouverte tous les vendredis, en tout cas entre 18h et 20h, à l'écoute de l'Algérie avec les militants du CATSA. Et on rappelle... le rendez-vous de dimanche 15h Porte d'Aix à l'appel du CATSA pour l'Algérie démocratique et sociale, et on m'a donné une affiche pour annoncer qu'à l'occasion du printemps berbère 2019, il y a un rassemblement place de la Joliette à Marseille le samedi 20 avril 2019 à 15h30. Voilà, après, il y a une affiche. Voilà, donc, c'est fini. On a pris 2 minutes. On s'excuse auprès de nos amis. Merci. À bientôt.
Merci.